Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma au Sémaphore avec Jean-Sylvain Minsen. Bonjour Jean-Sylvain.
Bonjour Sylviane.
Et nous allons parler du nouveau programme donc, qui sort le 27 septembre. Donc nous parlerons des sorties du 27 et du 4 octobre.
Voilà.
Et c'est assez dense, il y a beaucoup de choses et puis il y a beaucoup d'événements à côté. On va peut-être parler de la séance de rattrapage de Une salle sous les étoiles dont vous étiez le partenaire.
D'accord,
oui, pourquoi pas. Ah, allez, on change les plans.
Okay, pas de problème. Alors oui, effectivement, lors des projections cet été, il y a eu deux petits couacs. Il y a eu l'écran qui s'est envolé, qui s'est
détaché.
un peu détaché et déchiré pendant la projection du film Les Nouveaux Sauvages, qu'on a été obligé de couper à peu près aux deux tiers. Donc on refait avec l'aimable autorisation du distributeur Warner, pour ne pas les nommer, une séance de rattrapage. Donc c'est vendredi 29 septembre, donc à 18h30 il y a Les Nouveaux Sauvages, et à 21h30 il y a L'Étrange Créature du Lac Noir, qu'on n'a pas pu passer pour des histoires d'incompatibilité de lunettes 3D. voilà, donc c'était un peu compliqué. On n'a pas encore tout à fait résolu le problème technique à l'heure où on en parle, Sylviane. Donc voilà, on aura la version 2D en tous les cas, ça c'est sûr.
Ah oui, pourtant les lunettes 3D, j'en avais entendu parler, hein, pour les commander.
Mais c'est
tout,
avec le support numérique, c'est compliqué de faire...
Ah là là, tous les trucs techniques. Et donc, entre les deux, il y a un apéritif.
Donc
comme
il fera beau, on se mettra dehors. Avec des tables et tout ça, ça ira très bien.
Donc le 29 septembre, on retourne à Sauvage. Alors, c'était pas logique, mais tant pis. Les sorties du 27, et vous avez vu Le Procès Goldman qui vous a enthousiasmé.
Oui, il y a pas mal de films qui sortent le 27. Il y en a que j'ai vu, que j'aime pas beaucoup, donc j'ai pas envie d'en parler.
Donc vous n'en parlez pas, vous avez le droit.
Voilà, Woody Allen, pour ma part, je ne vais plus voir.
Pour des questions d'éthique,
donc je vais pas en parler. N'attendez pas trop La Fin du Monde, c'est un film qui est roumain de 2h45 et que je n'ai pas pris le temps de voir, mais par contre, j'ai vu cet été Le Procès Goldman, qu'on avait passé en avant-première au mois de juin dans le cadre de c'était pas un hommage, c'était la programmation de la quinzaine des réalisateurs. C'est le dernier film donc de Cédric Kahn qui est venu une fois au Sémaphore. Et qui raconte donc le procès de cet homme qui s'appelle Goldman, qu'on accuse de tous les noms et de toutes les, tous les meurtres, tous les trucs comme ça, parce que c'est un petit voyou, qu'il était un peu, avec son nom à tendance juive, une cible idéale,
un
bouc émissaire idéal. Alors il reconnaît tout à fait qu'il a fait des braquages, des bêtises pour financer sa révolte et ses mouvements révolutionnaires, mais il n'a jamais tué personne. Donc c'est vraiment ça, on l'apprend au cours du procès.
Un procès
le
politique,
film, c'est
en fait
le procès. C'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire dans le film, c'est que la caméra ne sort pas quasiment de la salle d'audience. Et c'est remarquable. L'acteur Ariel Worth Thaler est absolument époustouflant. Du début à la fin, il est de tous les plans, de toutes les séquences. C'est lui qui mène le bal devant son avocat, l'avocat général, le président. Voilà. Donc c'est vraiment un grand, grand film de cinéma, parce que c'est une performance de monter ce film-là. On ne s'ennuie pas. C'est un film d'une époque, les années 75. On est ben, c'était les mouvements révolutionnaires qu'il y avait un petit peu partout en Europe, et on a essayé de lui coller ça sur le dos. Voilà, c'est un grand film de cinéma, donc à ne pas rater sous aucun prétexte.
Sous aucun prétexte.
Voilà. Non. Et c'est encore une fois, désolé, je suis un peu troublé par la sonnerie du téléphone. C'est un film effectivement qui parle d'une époque qu'on pensait avoir envie de mettre sous le tapis, si vous voulez, la manière dont la justice française fonctionnait et les relents de d'antisémitisme et tout ce genre de choses. Mais ce qui est bien, c'est que le film en parle. Mais on n'est pas complètement abasourdi par le personnage, parce qu'il a des côtés, on a envie d'y mettre des gifles aussi. Il a des côtés arrogants, sûrs de lui, donneur de leçons. Voilà. Donc c'est pas la pauvre victime du méchant système judiciaire français. C'est beaucoup plus fin que ça, ça, bien évidemment, qui fait la qualité du film.
Et on parle de sa fin. On parle de non. On
voit que je ne vais pas vous le dire.
Mais moi je la connais, donc découvrir.
À découvrir. Et c'est vrai que c'est aussi. Vous verrez les avocats, notamment, ça a été défendu par Maître Kijman, qui a été après, c'est son premier grand coup, et c'est grâce aussi à ce procès qu'il est devenu un as du barreau, et d'accord. Voilà, ça a participé à sa renommée.
Donc c'est pas qu'un film d'époque tout de même, ça soulève des questions profondément actuelles.
Politique aussi, bien évidemment.
Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce, c'est peut-être le meilleur moyen de comprendre un peu ce que l'on va aller voir.
Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis.
Révolutionnaire dans l'âme.
Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster?
Oui.
Et d'assassin?
Non, certainement pas.
Et pour vous, il est innocent, vous ne vous posez pas la question.
On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux?
Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros!
Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur.
Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste?
Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme.
Eh bien, c'est une honte!
Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête.
Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit!
Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits!
Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
Alors nous passons aux sorties du 4 octobre, et là vous en avez vu plus, puisque vous avez eu plus de temps, et je ne sais pas par lequel vous allez commencer, peut-être Lost in the Night.
Lost in the Night, allons-y, c'est un film qui était présenté en avant-première au Festival de Cannes, c'est là-bas que je l'ai vu, et c'est un film dont je me rappelle, donc
c'est bon.
Pour vous dire s'il est... parce que c'était quand même au mois de mai, depuis j'en ai vu un certain nombre. C'est un film d'Amat Escalante, qui est un jeune réalisateur mexicain qui a fait beaucoup de choses. Il a fait du clip, il fait autre chose que du cinéma, donc il vient pas très souvent au cinéma. C'est un film dérangeant à plusieurs niveaux. Parce que c'est un film qui pose des questions écologiques, notamment, de pouvoir en parler avec le film précédent, Le procès Goldman. Là aussi, les questions de politique au niveau du Mexique, des extractions de mines, tout ça. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que le film est centré sur une maison qui est au bord d'un lac, qui appartient à une famille de riches... Jean de Mexico, un gars qui voyage tout le temps, qui fait des...
qui est jamais là.
Des vidéos, qui est jamais là. Sa femme, qui est une superbe bombe actrice, magnifique jeune femme, et leur fille, qui est en sortie d'adolescence, donc petite jeune femme, et qui ne pense que par les réseaux sociaux, tout ça. Et il y a un jeune homme qui s'occupe de près de cette famille, et au début, on comprend pas exactement pourquoi. Et au fur et à mesure que le film se déroule, on comprend que sa mère est morte, a été tuée par la police mexicaine, parce que la police mexicaine et la corruption, ça va souvent de pair, malheureusement. Et cette femme était militante écologique et ne voulait pas s'opposer à l'implantation d'une mine dans ce coin-là. Et elle donne l'adresse de cette maison parce que c'est là... Enfin, on connaît l'adresse de sa maison parce que c'est là où elle a été assassinée. Donc ce fils va en quête de retrouver les traces de sa maman disparue, assassinée, et croise les gens qui habitent là, mais qui n'ont rien à voir dans l'assassinat de leur maman. Donc voilà, donc c'est un film qui est cinématographiquement absolument merveilleux. C'est filmé en scope, il y a plein de plans, vous verrez notamment à la fin, sur des décors abandonnés au milieu du lac, quand il se cache parce qu'il est poursuivi par la police. Moi,
vous le recommandez?
Je le recommande. Alors, c'est un film qui n'est pas facile, hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a quelques scènes un petit peu difficiles, mais c'est un excellent film de cinéma.
Donc, les deux aspects, c'est-à-dire le contenu et également la façon de filmer, le scénario, puisqu'à chaque fois, vous nous rappelez, le cinéma, c'est aussi la structure, quoi, du scénario. Il n'y a pas que l'image. Donc, Lost in the Night. Donc, voilà, deux films que vous recommandez vivement. Entre les lignes.
Alors, ça, c'est une particularité de...
À nouveau, le téléphone. C'est ma forêt demandée.
Ouais, c'est une particularité d'une réalisatrice française qui s'appelle Eva Husson. Et elle fait des films anglais. Voilà. Donc là, elle fait un film qui est complètement british. D'ailleurs, le soir de la première, le 4 octobre, j'en profite, à 18h15, la séance sera présentée par les membres de l'équipe des écrans britanniques.
Les écrans britanniques, d'accord.
Moi, à chaque fois qu'il y a un film anglais, c'est « Allô, écran britannique, il y a un film anglais ». Et donc, c'est une histoire assez classique et banale, somme toute, au cinéma, d'amour contrarié entre deux gens de castes différentes. Ça se passe dans l'Angleterre de 1924, donc au sortir des traumatismes de la Première Guerre mondiale, et c'est une histoire d'amour impossible entre un jeune héritier d'une famille qui doit être avocat et réussir, et une femme de chambre qui est sans dessous, mais qui est belle à mourir.
C'est Downton Abbey.
Pour les fans de c'est pour ce public-là, des belles images, des belles voitures, des ralentis, des couchers de soleil, et ça fonctionne assez bien.
Oui, parce qu'il y a quand même la psychologie des personnages, je pense, lutte pour...
Et puis il y a des formidables acteurs, il y a Colin Firth qui joue le rôle du papa de ce jeune avocat.
C'est déjà
avocat,
un argument choc.
Olivia Goldman, qu'on a vu dans le film sur le cinéma, Empire of Light, au printemps. Donc voilà, un petit film anglais avec les racines... Elle finit, bien évidemment, ça se passe quelques années plus tard. Elle rencontre un autre homme, elle devient écrivaine, et voilà. Donc c'est du romantisme à l'anglaise.
Vous vouliez jamais dire la fin.
J'ai pas dit la fin, j'ai dit la deuxième partie du film.
La deuxième partie, voilà. D'accord.
Parce qu'elle a deux hommes dans sa vie, et voilà. Et je vous dis pas pourquoi elle passe de l'un à l'autre, parce qu'il faut laisser du suspense.
Alors, comme la bande-annonce est en anglais, on va pas l'écouter. On va écouter la bande-annonce du film dont vous allez nous parler après, c'est-à-dire Le règne animal, que vous avez vu dans les itinérances d'été à Alès.
T'as vu le retard qu'on a déjà?
Genre, c'est ma faute.
Attends, tu te fous de moi? Attends, Émile! Oh! T'arrêtes ton circuit!
C'est quoi ton problème?
C'est pas...
C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
C'est ta mère, Emile.
Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Faut me faire confiance. On va la retrouver.
Lala!
Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
T'as peur des créatures?
Faut apprendre à vivre ensemble.
faut pas avoir peur.
Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?
Alors, sur Radio Alliance Plus, après deux, trois films que vous aimez beaucoup, Procès Goldman et Lost in the Night, un dans son style Entre les lignes, Jean-Sylvain, vous allez nous parler donc du règne animal que vous avez vu à Alès. Et vous parliez des acteurs, il y a Romain Duris, donc c'est déjà, pour moi, je trouve que c'est un très grand acteur, ce Romain Duris, mais il n'y a pas que ça.
Il y a Adèle aussi.
Il y a Adèle.
Adèle imprononçable, Exarchopoulos.
Exarchopoulos.
Voilà. Exarchopoulos, pardon pour les
mais on ne parle pas tous grec. Hein.
Voilà, les fans de la gréquitude. Alors, Le règne animal, c'est un film français, révélé au Festival de Cannes également. C'est le second film de Thomas Caillé qui avait fait il y a quelque temps Les Combattants. Qui avait fait l'ouverture du festival Sauvage.
Avec l'autre Adèle, voilà, Adèle.
Ouais. L'autre Adèle qui a arrêté de faire des films. Et c'est un film sacrément gonflé, Le règne animal. C'est un film qui aurait pu tout à fait passer à côté des radars et se planter complètement. Et c'est juste un film formidable. C'est un film de science-fiction. Mmh. C'est une époque où les animaux malicieusement commencent à reprendre sous des formes un petit peu monstrueuses la domination sur la nature.
C'est l'époque de la... Ces vidéos, on voyait les sangliers, les biches... Ouais.
Alors là, c'est les animaux en numérique, si vous voulez, animaux qui sont... Et c'est les hommes et les femmes qui se transforment en animal sous certaines formes. Ça va, ça vient. Voilà. Voilà. Donc on suit...
Un peu science-fiction,
voilà.
Quoi.
On suit... Donc,
on entre bien dans le film.
Sans problème. On suit Romain Duris qui part pour une histoire de boulot travailler dans les Landes et il amène son fils qui est Paul Kircher. Et ce Paul Kircher, il est jeune, il est ado, il est beau, il va au lycée, il rencontre des jeunes filles, il va faire des balades en vélo dans les Landes et puis petit à petit, il a le dos qui commence à le gratter, il a des poils qui le sortent, tout ça. Et donc c'est vraiment un film formidable c'est la vengeance de la nature, entre guillemets, sur tout le mal qu'a fait l'homme pendant des décennies. Ça fonctionne vachement bien, on est scotché au fauteuil du début à la fin, et quand la lumière se rallume, on n'a pas du tout envie de partir parce qu'on était hyper content d'avoir vu ce film.
Donc il y a beaucoup d'effets spéciaux sur la transformation des personnes,
c'est pas non plus, on n'est pas dans les Transformers ou autre monstre de la galaxie, on n'est pas chez Marvel, hein. Ça reste du cinéma d'auteur extrêmement, mais on n'a pas énormément de films qui touchent là, et c'est pas un film de science-fiction, c'est un film qui utilise la science-fiction pour dénoncer la crise écologique. Et je trouve ça profondément intelligent comme manière de
délivrer un message écologique, parce que c'est vrai qu'on peut se dire encore un film sur l'écologie, alors que là il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et les acteurs sont très bons.
Romain Duris, super.
Romain Duris, moi j'aime beaucoup.
Quand il était moins connu, il venait au Sémaphore. Il était venu les deux fois présenter les films de Tom Négatif.
C'est ça la
c'est
gloire.
Ça, et ouais.
C'est ça la
Grâce
gloire.
À nous, il est allé loin, ce petit.
Et je ne l'ai pas vu à l'époque de ses débuts. Il ne devait pas être encore
il
anime.
Il était jeune et beau.
Maintenant, il n'est pas nous. Trop vieux.
Non.
Alors ensuite, L'air de la mer libre.
L'air de la mer rend libre.
L'air de la mer rend libre. Ah oui, c'est
Alors
complètement
c'est,
différent.
C'est un film qui dénonce un petit peu les mariages arrangés. C'est un film de mariage arrangé, donc il les dénonce. entre deux personnes, un homme et une femme, d'origine maghrébine, et qui, je ne vais pas vous dire parce que... Ça se passe en France, oui, bien sûr. Ça se passe au bord de la mer, ça se passe à Rennes. Et les
Rennes,
parents...
Rennes, ce n'est pas au bord de la mer.
Il y a des scènes au bord de la mer, puisque c'est l'air de la mer qui rend libre.
Pardon. Donc,
c'est quand même plus au bord de la mer que Lyon, on est d'accord avec
d'accord.
ça. Voilà. Et donc, ces deux personnages se marient pour arranger les familles, être en paix avec leur père et leur mère, en disant hey, tu te maries, il faut que tu me fasses une fille, il faut que tu me fasses un fils, machin.
Ils ont un décalage d'âge, voilà. Non, pas trop.
Ils sont, voilà. Et c'est, j'aime beaucoup ce que fait Nadir Moknesh. C'est des films par petites touches, si vous voulez. Ça avance comme ça petit à petit. Et ces deux personnages finissent par, qui n'ont absolument rien à voir, qui finissent par s'apprivoiser l'un l'autre. Et ça débouche sur un respect dans le voilà. Donc c'est un peu difficile d'en parler développer, mais je trouve que c'est une belle manière de sortir d'une problématique familiale due à la famille, au poids des religions et tout ça. Et voilà, donc c'est un film assez fin, voilà. Ben, l'air de la mer rend libre.
Dans la mesure où il n'y a pas un décalage d'âge, parce que moi, ce qui me choque profondément, c'est ces mariages de toutes petites gamines de 13-14 ans.
Là, c'est pas le sujet. C'est deux jeunes gens qui ont entre 25 ans, donc il n'y a pas ce...
Et même à cet âge-là, ils sont obligés de se soumettre. C'est ça qui est terrible.
D'écouter ce que disent leur papa et leur maman.
Eh oui, c'est le patriarcat, il est encore là, très, très dominant, parce que je pense que c'est surtout le papa, tout de même, qui oblige le mariage. Non, la maman aussi?
Ah ben, vous verrez, la jeune fille, c'est que la maman qui s'en occupe, il n'y a pas de papa. Donc,
mais les femmes sont elles-mêmes pour... C'est ça que moi qui me rend un peu sceptique, c'est que les femmes continuent un peu de perpétuer ces éléments, alors qu'elles en sont les victimes. Alors, on a parlé des quatre filles.
Les premières victimes, après, il y a les enfants.
Ouais, c'est un cercle vicieux vraiment, vraiment épouvantable, je trouve. On est vraiment dans une ère où, pour la condition de la femme, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, on a parlé des quatre films donc, que vous avez vus et que vous recommandez donc, pour la sortie du 4 octobre.
Il y a encore plein de films à l'affiche au Sémaphore. Parce qu'il y a notamment Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki qui est sorti le 20. Donc ça, c'est absolument faramineux. Il faut le voir. C'est d'une beauté. Je crois que je l'ai dit la dernière fois dans l'émission. On sait tout de suite chez qui on est. Il y a le film de Pierre Ninet aussi, Le Livre des Solutions, qui est sorti juste avant la feria. Donc c'est les Nîmoises et les Nîmois avaient envie d'aller faire un peu la fête. Et il y a cette caméra d'or de Cannes, L'Arbre au Papier d'or qui est sorti aussi le 20.
Vous n'en avez pas parlé.
Voilà, ça j'en ai pas parlé parce que je l'avais pas vu et c'est absolument magnifique. Alors il faut s'accrocher parce que c'est un film vietnamien qui dure 3 heures.
Oui.
Mais voilà, on est dans du beau cinéma asiatique qui prend son temps.
Mmh.
Et il y a des spectateurs et spectatrices ni moi qui aiment beaucoup ça.
Tout à fait. Alors sinon, et Catherine Breillat l'été dernier, ça reste ?
Il y a toutes les manifestations. La rétrospective Pietro Germi, tout le travail qu'on fait sur le répertoire, notamment italien, avec 3 films à partir du 27, donc Au nom de la loi, Séduite et abandonnée et Les chemins de l'espérance. Mmh. Il y a toutes les infos sur le programme.
Oui, puis dès qu'on voit l'affiche, on se rend compte que c'est une rétrospective.
Ouais, on connaît les...
Vous aimez beaucoup ce cinéma italien.
Ouais. Alors c'est rigolo, on parle de ça, mais il y a énormément de rééditions de films italiens en France, beaucoup plus que du film espagnol. Bon, alors, ils ont plus produit que les Espagnols, mais par exemple, beaucoup plus que les films anglais.
Expliquez comment ?
Par la qualité, d'abord, du néoréalisme, tous les noms qui sont quand même assez connus, les actrices, les acteurs, qui ont rendu le cinéma italien mondialement connu.
Ouais.
Et la proximité aussi entre la France et l'Italie, avec des accords de coproduction maintenant, parce qu'il y a aussi beaucoup de films italiens. Il y a eu le film de Nanni Moretti, là j'aurai l'occasion de parler des deux films italiens qui vont sortir au mois de novembre, que j'ai vu, qui sont absolument faramineux. Donc il y a
une longue tradition de dialogue entre les deux pays. Et puis, Là, on parle de l'Italie, mais il y a Cinelus avec Daniel Vidal pour l'Espagne.
Qui fait l'Espagne.
Donc, on n'oublie pas l'Espagne. Non,
on n'oublie pas
et
l'Espagne.
Et Cinelus, ça marche bien. Hein, je veux dire, a trouvé son public.
Il a trouvé son public, l'ami Daniel. Et puis, comme on parle d'Italie, il y a une séance avec Christophe Loiseau, en collaboration avec le Théâtre de Nîmes, avec la nouvelle équipe du théâtre, autour de leur premier spectacle. Et on passe le film Caravage de Michel et Placido. Et donc, Christophe Loiseau, qui est un photographe.
Oui, on avait vu ces photos au carré d'art avec lumière de vie, avec le son.
Et il viendra parler de son travail.
Et là aussi, je pense, l'interviewer pour lever de rideau pour le théâtre de Nîmes dont nous sommes partenaires.
Voilà, je continue mon petit tour parce que c'est Claude Aziza qui continue aussi ses westerns avec La Charge Héroïque. Et je voulais m'attarder sur une chose, c'est le temps que vous organisez, un nouveau rendez-vous qu'on va faire, alors encore une fois autour du cinéma italien, c'est un ciné-club avec les élèves du lycée Saint-Stanislas.
Ouais.
J'ai fait une programmation avec leur professeur d'italien et ils vont venir voir les films et préparer une introduction pour le public. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des jeunes qui vont présenter le film au public. Donc le premier rendez-vous, c'est le 19 octobre, j'aurai le temps peut-être d'en reparler. À 18h15 avec le film de Nanni Moretti, donc Vers un avenir radieux. Si les gens n'ont pas eu le temps de voir Vers un avenir radieux qu'on a gardé tout l'été, ça fait office également de séance de rattrapage. Et ça fera aussi, Sylviane, j'aurai le plaisir de vous y inviter si vous êtes disponible.
Alors c'est quand la séance?
Le 19 octobre à 18h15.
Comme ça, on peut prendre le temps avant. Et puis de donner la parole aux étudiants, je trouve que c'est bien. Je l'ai vu, moi, pour le conservatoire de musique qui présentait des concerts. Et c'est une belle mise en bouche, je trouve, pour eux et pour nous. Et donc voilà.
Et puis du coup, ils sont obligés de lire des choses pour apprendre à connaître Nanni Moretti et tout. Ils lâchent leur téléphone, ces jeunes, donc c'est bien.
Et c'est combien de temps à peu près leur présentation?
C'est 10 minutes, un quart d'heure au début. Et on va pas être.
Et puis les questions, elles ne seront pas méchantes, je veux dire, parce que les cinéphiles ne sont pas méchants. Non. Les cinéphiles aiment partager donc leur passion.
Non, mais c'est la prise de parole en public, l'échange entre générations qui nous a intéressés dans cette création de ciné-club. Voilà.
Et ça sera à quel rythme?
C'est une fois par mois.
Une fois par mois. Ça revient. Et c'est jamais les mêmes élèves, je suppose.
C'est le même groupe d'élèves qui vont venir. Voilà, donc ils sont tous les élèves d'italien de Saint-Stav vont venir.
Donc ça sera que des films italiens.
Ouais, que des films italiens.
Ok, j'avais pas tout compris. Merci.
C'est pas grave.
Merci à vous, Jean-Sylvain. Donc une très belle programmation, des rencontres comme d'habitude. On a vu, c'était hier, mais on a vu Yolande Moreau. Donc vous avez toujours le don de nous faire rencontrer des personnes fascinantes. Merci à vous.
Merci, Sylviane, à vous.
Alliance Plus.